Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce premier magazine de la moto de cette année 2015 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Toute l'équipe de Kikinkout et Toupal vous souhaite une bonne année 2015. Nous vous invitons à profiter pleinement des êtres qui vous sont chers, de votre moto aussi bien sûr, de faire de belles balades, de prendre soin de votre santé et de continuer à nous suivre tous les dimanches sur le 106,6 de Radio Campus Lille. Christophe, bonjour.
Bonjour l'ami.
Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un sujet très important. Il n'y a pas de mag hein, aujourd'hui parce que c'est décembre-janvier. Hein.
On en avait parlé.
Donc on s'est proposé, on a pensé à faire un petit dossier, un dossier électrique. Hein. Où en sommes-nous dans ces véhicules hein, qui sont propulsés par des électrons en fait?
Voilà, tu connais mon penchant pour le sujet. Hein. ça fait quand même quelques années que tu me dis il faudra faire un numéro spécial électrique.
Spécial électrique, voilà.
En donc là, comme on a connu les derniers développements en 2014, j'ai pensé que c'était intéressant de réunir quelques personnes concernées qui pourront nous en parler de façon précise. Alors, on partagera donc des expériences. Hein. Tu parlais de belles balades. On aura Benjamin au téléphone qui a traversé les États-Unis avec un scooter électrique.
J'étais surpris qu'on puisse traverser pratiquement les États-Unis d'est en ouest avec un scooter électrique. Mais combien de temps il a mis?
Voilà, il nous expliquera.
Pour faire cette traversée d'Amérique.
C'est pas un long fleuve tranquille. Mais l'aventure, c'est ça. C'est quelle que soit la monture, hein, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Ça peut être à vélo, à cheval, en moto et en scooter électrique. Pourquoi pas?
Très bien. Donc, on va présenter notre pour ce sujet très électrique, effectivement électrisant même notre invité Jean-Louis. Peut-être.
Voilà, Jean-Louis Ropers. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour. Hein,
donc Jean-Louis.
Bonne année à tous.
Jean-Louis est belge. Je lui dois d'ailleurs une fière chandelle parce que c'est le premier qui m'a fait essayer son véhicule. Donc c'était.
Et on est toujours copains.
Je pense que Jean-Louis, il se rend pas compte où il s'est mis là. Tu vois. Aujourd'hui, il va passer une heure et demie, je crois que ça.
Je suis un peu prévenu.
Ça sent le mazout ici.
Jean-Louis sera notre témoin exceptionnel parce qu'il a une grande culture, il connaît beaucoup de monde dans le milieu et il nous parlera un petit peu de sa motivation et comment il est arrivé là.
Très bien. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour tout le
bonjour,
monde.
Bonjour, bonne année, bonne santé année, pour des balades. Tu sais que j'ai vu les photos de ta moto sur un site où c'est Motomag avec Motomag. Les skis, le système que tu as bricolé, c'est du sérieux même, avec des amortisseurs.
Oui, c'est
un
du sérieux, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas très original parce que au musée d'Uxvarna en Suède, déjà dans les années 50, il y avait des Uxvarna équipés de ski pour l'hiver.
Très bien. Bon, je rappelle que tu es membre de la Fédé du Nord.
Exactement.
Et qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de la fondation de la mutuelle, la nouvelle fondation de la mutuelle des motards, et puis des actus européennes.
Hein, des actus européennes, et puis peut-être un petit tour, enfin ça dépendra du temps,
du timing,
peut-être un petit tour de ce qui a été réalisé par la FFMC récemment, fin d'année.
Nico, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Surpris de te voir aujourd'hui dans les studios de Radio Campus pour cette première.
Surpris. Moi, je suis là pour souhaiter une bonne année à tout le monde.
Très bien, bravo.
Et je suis là pour défendre les couleurs de la vraie moto.
Voilà. On a enfin implanté le tableau.
La couleur est donnée.
Le décor est donné.
Mais des goûts et des couleurs.
Ah oui, mais bon, il en faut pour tout le monde, Nico aussi.
Je ne suis pas contre, mais bon, il y a des contre-vérités sur l'électrique et donc je veux mettre mon doigt dessus.
Il va falloir quand même qu'on fasse un point parce qu'on voit que tous les constructeurs sortent leurs modèles, mais on les voit pas pratiquement sur la route. Hein. On n'en voit pas.
Bon, voilà. Ouais,
on est d'accord.
On voit pas beaucoup.
On a des explications.
On voit pas beaucoup de roquettes sur les routes, mais elles existent.
Exactement. Bonjour Christine.
Bonjour.
Bonne année. Bonne santé
oui,
aussi.
Oui, bonne santé surtout.
Et puis beaucoup d'infos pour cette année.
Je vais glisser une petite hivernale.
Je ne sais pas si tu pourras, mais bon, on verra bien.
Glisse.
Bonjour Laurent, bonne année également.
Bonne année à tous.
On rappelle que tu es notre technicien chéri, et puis c'est toi qui signes
chéri Bibi.
Ce fameux programme musical.
Eh bien, on va commencer en électrique alors.
Sunlight's coming time, we hit the highway.
On se croirait à Bonneville. Hein. On en parlera tout à l'heure avec.
Là, Christophe, ça décolle pour ce sujet très électrisant aujourd'hui. Donc, avec Jean-Louis, hein, donc, qui vient de Belgique. Hein, là, on a remis son vectrice en charge hein, parce qu'il nous a dit 100 km.
C'est tout juste.
Hein, donc, on a
tiré une rallonge. Il pourra le faire. Bah, c'est l'objectif. Alors, bon, Vectrix, en deux mots, c'est une marque malheureusement qui aujourd'hui n'existe plus. Donc, tous nos véhicules sont des collectors déjà. Il était presque déjà.
Il faudrait rappeler ce que c'est que Vectrix.
Alors, Vectrix.
C'est une marque de scooter électrique. Hein.
Jean-Louis, tu peux nous donner, parce que tu connais effectivement l'histoire de la marque. C'est une marque américaine.
C'est une marque américaine.
Il faut parler dans le micro. Les Belges.
Ok, ça marche. Voilà. Voilà. Donc, Vectrix, c'est une marque américaine qui est née il y a une dizaine d'années. Et qui a connu des débuts assez difficiles avec des produits qui étaient malheureusement trop chers pour le marché. Mais je ne suis pas un spécialiste en fait de Vectrix, je suis juste un passionné de cette machine parce que voilà, c'est pendant de très nombreuses années, c'était la seule machine avec une capacité de performance qui est capable de monter à 100, 120 km/h sur autoroute, avoir une autonomie annoncée de 100 km. Et il a fallu attendre jusque l'année passée ou il y a 2 ans avec BM pour sortir une machine équivalente, en fait, voire un peu plus puissante. Mais Vectrix avait 10 ans d'avance sur la concurrence et était le seul sur le marché avec un produit comme ça.
Il faut bien se dire que quand on achetait ce véhicule, on nous annonçait une durée de vie de batterie de 8 ans et 80 000 km.
Oui.
Or, elle était affectée de tard, je dirais, de conception, par le chargeur et par le soft, qui ont flingué les batteries. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai changé deux fois le pack. Donc quand on connaît le prix d'une batterie, bon, sous garantie ça va, mais hors garantie c'est pas bon. Et donc malheureusement, une erreur de développement, en fait, de recherche et de développement, a fait qu'ils se sont retrouvés avec des véhicules en SAV un nombre considérable. Donc deux dépôts de bilan, un en 2009 et puis le dernier en 2014 qui a été fatal, quoi.
En fait, Vectrix avait fait des erreurs aussi énormes en termes de service après-vente où il se pensait être Rolls-Royce et donc il proposait une couverture pièces et main-d'œuvre sur place. Donc quand il y avait des motos qui se plantaient en Australie, en fait, ça leur a coûté une fortune à payer l'hôtel et tout à tout le monde.
Ouais. Donc, moi, j'avais le mien. Bon, c'est le concessionnaire Triumph, donc la plus grosse concession au nord de Paris, qui était concessionnaire Vectrix. Je voyais passer les dépanneurs de Hollande. Ils allaient à Nice réparer les scooters niçois. Et nous, on avait deux véhicules qui étaient immobilisés à Lille et on attendait qu'ils viennent nous dépanner. Donc, première panne, 7 mois d'immobilisation.
Donc, et première expérience électrique
Ah ben bah déplorable, il faut
négative.
Ah quand même.
Il y a ce paradoxe en fait. Bon, c'est-à-dire quand on se lançait à l'époque dans l'électrique, on savait qu'on était des pionniers. Donc il y avait forcément des plâtres à essuyer. Mais ce plaisir de la machine arrivait à compenser un petit peu cette difficulté.
Voilà. Et puis c'est une réponse aussi à un besoin de mobilité urbaine. J'ai souvent expliqué, bon, je suis motard, mais pour des besoins de mobilité urbaine, la moto étant pas adaptée, je suis passé au scooter.
Là, on a parlé d'une marque ancienne qui n'existe plus d'ailleurs. Hein.
Non, le dépôt de bilan a été prononcé le 31 janvier 2014.
Après, il faudra quand même parler un peu de pourquoi on roule électrique et actuellement, les véhicules, ils sont faits pour quoi ? Ils sont faits pour se déplacer en ville, surtout en ville.
Mais je peux peut-être parler de ma propre démarche, si j'ai quelques minutes en fait là-dessus. Pourquoi l'électrique ? Ben, d'une part, en termes de réflexion sur la mobilité, il y a d'abord l'aspect environnemental. On parle tous du réchauffement climatique, on a l'impression qu'il y a très peu de choses qui sont faites avec ça. Donc finalement, l'électrique est une manière d'éviter le CO2, parce que c'est une machine beaucoup plus... Enfin, les moteurs électriques sont beaucoup plus efficaces en termes de rendement que les moteurs thermiques. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a l'effet sur la santé. On nous dit depuis très longtemps que le diesel et toutes les émissions sont nocives pour la santé, alors qu'en ville, il y a beaucoup de véhicules qui sont à l'arrêt et qui émettent du bruit et de la pollution et qui ne se déplacent pas. Donc l'électrique là-dessus a un rendement aussi énorme. Et puis bien sûr, le 2 roues par rapport aux 4 roues, mais ça on est tous convaincus autour de la table, et les auditeurs aussi, qu'en 2 roues on est beaucoup plus efficace qu'en 4 roues, surtout.
Tu vois Jean-Louis, là, j'ai un petit souci parce que... En fait, au niveau écologique, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits. Et là, je viens d'entendre une paire les uns sur les autres. Parce que, en fait, le moteur à 4 temps, c'est vrai qu'il ne transforme qu'un tiers de son énergie en énergie motrice. Hein, le reste, les 2 tiers, c'est perdu en chaleur. Hein, c'est pour la combustion et les frottements mécaniques. Oui. Hein, alors, les promoteurs du véhicule électrique, comme toi, ils disent un véhicule électrique, c'est un moteur électrique et 90% de l'énergie est utilisée pour faire fonctionner le moteur. Hein, et donc, le reste, c'est vrai qu'il n'y a que 10% qui part en chaleur. Donc, le rendement est bien meilleur. Alors, je suis bien d'accord. Dit comme ça, c'est parfait. Sauf qu'on
c'est un mensonge.
Bah oui, l'électricité, elle vient d'où ? Il a fallu la produire. Alors, on la produit avec une centrale. Et la centrale, elle ne fait pas mieux que le moteur 4 temps. Elle fait 30%.
Elle fait bien mieux.
Elle fait 30%, qu'elle soit thermique, qu'elle soit centrale nucléaire. Faux. Elle fait 30%.
C'est faux, c'est supérieur. C'est de l'ordre de 50%. Ensuite, je ne suis pas un spécialiste en matière.
Moi, j'ai regardé, je me suis documenté pour l'émission.
Mais en fait...
Bon, admettons que ça fait 50%, mais je te dis, ça fait 30%. Ah, après, il faut la cheminée, le courant. Donc, il y a des pertes en ligne, il y a des pertes dans les câbles, dans les transformateurs, dans les redresseurs. Et finalement, il faut la stocker dans une batterie. Dont le cycle aussi de charge-décharge, ça occasionne des charges importantes.
Ce qui veut dire que l'électrique n'est pas quand même zéro.
On est d'accord, mais si vous voulez...
À la fin, le rendement de l'électrique, c'est 10%.
Oui, mais
c'est
là,
10% le rendement électrique.
On va pas faire le débat de l'électrique, on est sur la mobilité.
Il vient de dire que c'était une de ses motivations, il vient de dire que c'était l'écologie. Mais c'est pas vrai.
On parle de 2 roues.
Attends, je peux peut-être répondre, en fait. Bon, donc d'une part, c'est des arguments totalement classiques en fait qui sont évoqués. Il n'y a aucune surprise par rapport à ce que tu me racontes. Je te dirais juste une chose, c'est que l'électricité, il y a 36 000 manières de la fabriquer, d'accord ? Donc tu m'as parlé de solutions avec du gaz, du nucléaire, du charbon. On peut fabriquer l'électricité avec n'importe quelle matière première, d'accord ? Oui. Ce qui est faux avec une voiture. D'accord ? Une voiture traditionnelle à thermique, c'est forcément du pétrole qui sera de plus en plus cher, de plus en plus sale, de plus en plus profond. D'accord ? De plus en plus destructeur par rapport à la planète. Ok ? Oui. Moi, mon électricité qui alimente mes machines électriques sont produites sur mon toit.
Sur ton toit. D'accord ? Pendant la nuit ? Pendant que tu recharges la nuit.
Pendant que je recharge la journée, en fait, on peut
donc
faire
le
bilan.
Tu peux pas rouler la journée.
Attends,
laisse-moi terminer. On roule la nuit et on recharge la journée en Belgique.
Donc, en fait, je viens de faire le bilan en 2014. J'ai produit sur mon toit autant que j'ai consommé avec mon habitation et mes 10 000 km en voiture électrique, en scooter électrique, en mini-scooter électrique. D'accord ? Si. Donc, globalement, je n'ai payé aucune TVA, aucune taxe de quelque sorte que ce soit.
Grâce à une aide fiscale.
Non, grâce au fait qu'on a en Belgique cette capacité à produire soi-même son électricité, ce qui n'est pas possible en France, je suis d'accord. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, il y aura d'autres solutions pour fabriquer l'électricité de manière beaucoup plus propre encore que le panneau photovoltaïque et le courant, enfin les éoliennes. Alors, il y aura éventuellement une nouvelle forme de nucléaire qui s'appelle le thorium, qui est la source absolue d'un courant électrique non polluant, disponible en abondance considérable, qui a tous les avantages du nucléaire actuel sans les inconvénients de l'actuel.
Très bien. Jean-Louis, on va faire une petite pause musicale parce que tu as vu, on te l'avait dit, on avait le pour et le contre.
Mais ça,
c'est aussi la démocratie. Hein. Chacun doit pouvoir s'exprimer dans ce sujet. J'avoue que je ne suis pas trop électrique, mais je lui ai dit pourquoi pas, hein, après tout. Voilà. Mais on voyait bien pointer le côté écolo.
Mais j'ai été motard
plus de
en thermique avant tout.
Émise par un moteur thermique, ça on comprend. Ouais. Mais on comprend aussi que pour reproduire de l'énergie, toi, tu as de la chance parce que tu as pu installer, j'ai bien compris, des panneaux solaires sur ton toit. Mais imagine que tu habites dans un HLM, ce sera vachement difficile d'aller installer des panneaux solaires et de produire ton énergie propre. Donc il faudra bien une centrale nucléaire ou une centrale thermique pour produire l'énergie.
Oui, mais en fait, si vous voulez, il y a un côté
électrique.
On est d'accord. Maintenant, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le nucléaire, il tourne tout le temps. OK ? L'énergie nucléaire tourne tout le temps. Elle est en France, on est un champion, on est des champions en fait de l'énergie nucléaire qui fabrique de l'électricité, qu'il y ait de la demande ou pas de demande, d'accord ? Donc on appelle ça la base en fait. Au-dessus de ça, il faut en permanence couvrir la demande en fait, et donc il y a des statisticiens hyper poussés qui font des analyses de la demande prévisionnelle et qui font que on va lancer des machines qui vont produire de l'électricité en fonction de cette demande, et plus avec des sources qui sont beaucoup plus polluantes entre guillemets, qui sont beaucoup plus émettrices de CO2 que le nucléaire. Mais le nucléaire en France, en fait, dans certains cas, en plein milieu de la nuit, il y a de la production qui n'est pas forcément consommée en fait, et donc l'électrique avec les batteries.
Alors, le problème
et le réseau intelligent, donc ce qu'on appelle le smart grid qui va progressivement arriver, va permettre d'optimiser en fait le stockage, et donc on appelle ça aussi. Donc pendant la nuit, quand il y aura une production d'électricité non consommée, on pourra la stocker dans les batteries de tous les véhicules qu'on a. Et ces véhicules, quand vous rentrerez chez vous, par exemple pendant les heures de pointe, vous allez pouvoir vider ces batteries sur le réseau pour lisser en fait la demande et éviter que des sources très polluantes soient utilisées pour fabriquer ce qu'on appelle la crête d'électricité.
Ça y est, première émission 2015, tu as parlé un truc là. batteries intelligentes,
les 23h sur campus.
Tu sais ce qu'on va faire ? Eh ben, on va se passer un petit morceau de musique.
Voilà, ça va faire du bien à tout le monde.
I've been unconscious. I've been all kind of things that are hard to spell. I've been unruly and speaking truly. I've been so cool I couldn't hardly stand myself. I've been a monster without a sponsor.
I've been Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I've been a loner, I've been a goner. And when my mixture was right, hell, I'm a nice bunch of guys. I am what I am, cause I ain't what I used to be. And it is what it is, cause it ain't what it used to be. I was a mover, I was a shaker. You had a girlfriend, I tried to sneak her. I've been mysterious, at sea. I've been lost in space, and when I fall in love, I fall all over the place. I am what I am, but I ain't what I used to be. And it is what it is, but it ain't what it used to be. Now you can go on forever and make the same mistakes, or you can stand on your hind legs and change.
Je vous rappelle quand même que c'est le magazine de la moto, c'est une émission proposée par Kikin Kout et Toupal, c'est la première de l'année. Et au téléphone, nous avons Jean-Michel Orva, Christophe.
Oui, Jean-Michel qui est président de l'association des véhicules électriques parisiens. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, donc utilisateur de Vectrix quand il peut l'utiliser,
voilà.
Parce qu'on n'a pas de langue de bois, on est un peu des pionniers comme Jean-Louis l'a dit. Donc
des Blériot de l'électrique,
voilà.
Du scooter. Hein.
Des Blériot depuis 125 ans.
Voilà, c'est ça, ouais.
Voilà. Alors, rappelle-nous quand même, depuis quand l'électrique ?
Eh bien, écoute, là, j'ai regardé un petit peu dans mes archives, enfin, du moins celles qui sont avec moi ici, et honnêtement, moi, j'ai 1871, la première moto, elle devait être électrique, elle a fini par être à vapeur, elle s'appelle la Perrault Michaud, plutôt Perrault, l'ingénieur.
Ouais.
Et c'est une merveille et elle existe encore. On peut aller la voir. Et il a miniaturisé un moteur à vapeur, mais initialement il voulait mettre un moteur électrique parce qu'il connaissait les rendements. Par contre, il était emmerdé une fois de plus avec les batteries et il savait pas faire. Et après, on était en 1881 avec Trouvé qui a fait trois roues, un espèce de vélo. C'était plutôt la piste des vélos électrifiés, on va dire, en quelque sorte.
Des Français.
Français, M. Trouvé, Gustave Trouvé, 1881. Enfin bon, voilà, il y a eu des choses très très tôt autour de la propulsion électrique, y compris les bateaux, par exemple. Ça a sa logique, je l'ai entendu un tout petit peu l'émission, ce que j'ai pu au départ. Le moteur électrique a vraiment sa logique, hein. il y en a plein une bagnole, des moteurs électriques. Même
ouais,
puis
tu,
moto, un peu moins, mais...
tu réunis des passionnés qui restaurent donc des véhicules ou,
voilà.
Ou des deux roues.
Nous on est ça, nous on est une association où on réhabilite un peu des véhicules électriques de toute époque et on a un aussi une autre association équivalente à la VEP. Nous, on est à Paris, mais il y a une association un peu équivalente à Bordeaux, Pessac, qui s'appelle Mobile Eco. Ouais. Où là, ils ont la place et un peu plus de moyens. Ils ont un conservatoire dans lequel j'ai mis des véhicules. Et d'autres gens ont mis des véhicules. Où on conserve aussi des véhicules électriques. On les fait tourner. On met des batteries, on s'en occupe, etc. Parce que ça a existé, ça fait 125 ans que ça existe, la plaisanterie. Mmh. Et que c'est intéressant, c'est passionnant. Alors après, on peut s'intéresser à d'autres types de propulsion, hein, les turbines, etc. Il y a des moteurs rotatifs, tout ça est passionnant. Et donc, nous, on est plutôt dans la passion, dans la recherche, dans l'aventure. Et vous allez écouter tout à l'heure d'autres gens qui ont vécu l'aventure de la propulsion électrique.
Oui, c'est ça, parce que je pense que parmi tes membres, tu as un membre de ton conseil d'administration là, qui est allé à Bonneville, Yann nous en parlera, justement, Yann Lelong.
C'est notre association, parce que nous, en fait, ce qu'on mélange surtout, c'est des compétences, c'est des connaissances, et on croise des connaissances et des compétences, parce que souvent, dans les sociétés, les électroniciens ne parlent pas aux chimistes, les ingénieurs en informatique ne posent pas d'autres techniciens, enfin, c'est un peu trop... On est un peu trop cloisonné, donc nous on a décloisonné tout ça, en plus on s'intéresse à l'aspect historique des choses, et puis on se donne des conseils au quotidien pour ceux qui sont assez masochistes pour rouler avec un véhicule électrique.
Voilà. Je dois rappeler que parmi les propriétaires de Vectrix, donc il y a quelqu'un qui a créé un site, le site des Amis du Vectrix, et que c'est ce site qui a permis donc de créer une communauté et de gens qui se sont entraînés. Mon véhicule aujourd'hui roule après 3 ans et demi de galère parce que j'ai trouvé un propriétaire qui était sachant et qui a réussi donc à me conseiller pour le faire rouler. Voilà, bah, écoute, Jean-Michel, je te remercie. Donc on continuera tout à l'heure avec Yann Lelong, un de tes adhérents, qui est lui versé dans le professionnalisme, puisqu'il a quitté son métier de juriste.
La révolte, sa société.
Voilà, pour créer une société et vivre de ça.
Oui, tout à fait.
Jean-Michel, à bientôt.
À bientôt.
Et bonne route.
Au revoir.
Au revoir.
Broken laws, broken bodies, broken bones, broken.
Bah, ça nous réveille cette émission quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est pour cette première de 2015. Nous avons au téléphone Yann Lelon.
Oui, bonjour Yann. Allô ? Yann Lelon qui est donc qui a créé sa société Revolt Engineering. Yann qui aujourd'hui.
Bah, apparemment, on l'a perdu, Christophe. Et voilà, c'est une erreur de notre technicienne.
Oui.
Bon, c'est pas non, grave.
Il est en ligne. Enfin, il est en ligne, je pense.
Il est en ligne.
Non, c'est Benjamin. Allô, c'est Benjamin.
Allô, oui, ouais, c'est Benjamin. Là.
Ah, bonjour, Christophe. Oui, Christophe, excuse-moi.
Benjamin, Christine.
J'attendais ce que Yann réponde, mais...
Oui. Non, mais ça, c'est le bonheur du direct.
C'est un gros problème de charge.
Bon,
c'est un problème de
alors,
charge.
Oui, Benjamin Voiron. Là, c'est moi. Bon, Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Voilà, mais on fait tellement de choses entre deux.
Il fait trop froid pour les batteries aujourd'hui.
Bon, Benjamin, quand je disais tout à l'heure qu'on se rencontrait par le site internet Les Amis du Vectrix, c'est quand même bien ça qui nous a permis de rentrer en contact avec toi. Donc ouais. tu vas nous parler, tu as réalisé une traversée des États-Unis d'Est en Ouest avec ton Vectrix.
Mm-hmm.
Alors, t'es pas motard à la base.
Non, je suis pas spécialement motard.
Voilà, t'as passé le permis.
J'ai passé le permis spécialement pour cette aventure-là.
Oui, ça c'est assez génial.
Enfin, j'ai beaucoup roulé en scooter quand même depuis très longtemps à Paris, mais sans permis. Et là, le fait de partir avec un Vectrix aux États-Unis, on m'a fait comprendre qu'il allait mieux avoir le permis.
Oui, d'accord.
C'est nécessaire. Donc j'ai passé mon permis moto juste avant, deux mois avant. Pour la petite anecdote, j'étais à 15 jours avant de partir, on a passé l'examen que j'ai eu heureusement, mais c'était un peu tendu. Et ensuite, j'ai emmené mon Vectrix au Havre, hein, j'ai mis dans un porte-container, dans un container, il est parti en bateau et j'ai récupéré à New York.
D'accord. Et ton projet, donc, c'était ?
Et mon projet, donc, c'était New York-Los Angeles en Vectrix, ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai fait 6800 km parce que je suis pas passé par ni la route 66, ni les montagnes, Appalaches ou Rocheuses, parce que c'est un peu trop compliqué avec un Vectrix, comme vous le savez. Du coup, j'ai longé les côtes le plus possible. J'ai descendu toute la côte jusqu'à Savannah en Géorgie, en partant de New York, le plus près possible, donc ça c'était plat. Ensuite, j'ai coupé le bout de la Floride, j'ai rejoint le golfe du Mexique, jusqu'à la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, le Texas, etc. Et ensuite, je suis remonté.
Oui, alors il faut rappeler qu'à l'époque, c'était en 2011.
2011.
Voilà, ouais. L'autonomie du Vectrix, c'était quoi, 50
Autonomie.
Ouais, tu rigoles.
Non, autonomie réelle.
Ici aussi, on rigole, tu vois.
Sur le manuel, enfin, je me permets, moi aussi. Sur le manuel, c'est 60-80, mais en réalité, c'est plutôt un max 50.
Ouais.
Et moi, j'ai fait 30 en moyenne, puisque évidemment, dès que j'avais la possibilité de me recharger, j'attendais pas d'être sec pour me remettre sur une prise.
Et t'as toujours eu un accueil favorable ?
J'ai toujours eu un accueil favorable, ouais, partout. Ouais, j'ai eu des accueils particulièrement favorables. Moi, j'ai beaucoup aimé l'accueil des Américains. J'étais plutôt intéressé par ces machines-là. J'ai croisé un revendeur de Vectrix en Louisiane, et en Floride d'ailleurs aussi, qui me disait que bon, ça marchait pas très bien, mais il demandait également.
Ouais.
Il faut combien de temps pour recharger ?
Très bien accueilli.
Pardon. Alors, il y a Nico qui demande combien faut-il de temps pour recharger ?
2h30 à peu près pour avoir pratiquement la totale.
2h30 pour recharger. Ouais, c'est le 50 km pour rouler. Donc ça veut dire qu'on passe plus de temps à recharger qu'à rouler.
Non, mais comme ça, t'as le temps de boire des chopes.
Donc on passe plus de temps à recharger
l'aventure.
que
ouais. D'ailleurs, le nom de ton projet, c'était Electrip.
Electrip, ouais.
Voilà. Et aujourd'hui, on peut consulter parce que il faut quand même te reconnaître la qualité de tes photos. Est-ce que tes photos aujourd'hui sont encore visionnables ?
Elles sont toujours sur ma page Facebook. Il faut taper Electrique 6000 fans parce que pour LA. Normalement, c'est encore bon, mais c'est vrai qu'elle est un peu tombée en désuétude parce que j'ai perdu beaucoup de fans. Je suis monté jusqu'à 4800, je crois, et maintenant, évidemment, je l'anime plus trop. Mais il y a encore toutes les vidéos, toutes les photos, effectivement, dessus.
Bah, sur le site des Amis du Vectrix, on a quelques photos qui avaient été publiées. Je les mettrai sur le site de l'émission.
C'était sympa, ouais, effectivement. Et clairement, j'ai passé beaucoup de temps à attendre, en attendant la recharge, quoi. Très clairement, je faisais 2 ou 3 recharges par jour, ce qui me permettait quand même de faire plus de 120 km par jour, ce qui était pas mal. 150, ouais.
D'accord. Et aujourd'hui, ce véhicule, donc, roule.
Et alors, ce véhicule est justement chez Yann Lelon.
Ah, ben qu'on aura juste après toi.
C'est ça. Parce qu'il avait un souci de... Je je ne sais plus exactement.
Ok. J'espère
bien le récupérer un jour. Il faut que je m'en occupe aussi de ma faute.
Benjamin, merci de nous avoir fait partager quand même cette expérience de traverser des États-Unis. Comme quoi, c'est possible.
Exactement.
Allez, à bientôt.
À bientôt, merci à vous.
Au revoir.
Décollage, Christophe, cette fois-ci nous avons au téléphone Yann Lelong.
Oui, Yann, bonjour. Alors,
oui, bonjour.
j'ai déjà fait les présentations parce qu'il y a eu un impair, mais bon. Donc, je disais que tu as créé ta société Revolt Engineering et donc tu contribues. Alors, tu t'engages en participant à des courses et puis tu contribues aussi au soutien d'opérations. Alors, on connaît bien PyPix et puis Bonneville ici parce qu'on a un de nos motards régionaux là qui participe régulièrement. Donc, toi tu y as participé. Voilà. Toi, tu y as participé indirectement en soutenant des projets.
On a contribué, ouais, effectivement. Donc,
En fait, bon, déjà, je tiens à mettre fin à l'opposition entre le thermique et l'électrique. Et parce que bon, j'ai entendu tout à l'heure au sujet des rendements, etc. En fait, on n'a jamais les vrais chiffres. Chaque camp tire un peu la couverture à lui. Mais bon, si en F1, on s'amuse aujourd'hui à mettre des moteurs électriques, de la récupération à tous les niveaux, etc., c'est bien qu'il y a quelques avantages. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les débats. Il y a les chiffres, ils sont disponibles.
Il y a des F1 électriques ?
Voilà.
Il y a des F1 électriques
hybrides, hybrides. Elles sont hybrides aujourd'hui.
Ah ouais, d'accord.
Mais il y a des F1 électriques également.
Ça leur permet d'avoir un coup de boost pendant 2-3 secondes.
Mais il y a une course maintenant, il y a une formule électrique également.
Tout à fait. Alors, pour ce qui est de nos participations aux compétitions, puis après je vais peut-être embrayer très rapidement sur la convergence justement des performances entre l'électrique et le thermique. En fait, nos premières petites aventures compétition électrique, ça s'est passé grâce aux triplettes de Bonneville que pas mal de motards
en mobilette,
parce que, ouais. entre autres ouais. ça fait un paquet d'années que cette équipe essonienne participe à la Speed Week tous les étés sur les lacs salés, et ils ont pas mal de records. Bon, c'est vrai qu'ils sont dans des catégories ou un peu originales à chaque fois. Et ils ont brillé. Bon, c'est quand même des vrais pistonnettes. Hein. Vous allez chez eux, dans leur atelier, il y en a partout, des culasses, des pistons, des mobs, des motos, tout ce que vous voulez qui brûle de l'essence. Mais en 2012, ils ont souhaité aller sur des technologies un peu plus originales. Et donc on les a aidés à construire un racer électrique, donc, qui au départ était une moto carénée, et qui a fini en uni en sidecar parce qu'ils avaient des problèmes de stabilité, et dans la nuit, donc ils ont fait des travaux, ils ont réussi à battre un record du monde de vitesse, c'était en 2012.
D'accord.
Voilà, donc ça a bien marché.
Et alors justement sur les records du monde de vitesse, là tu as des indications à nous donner sur des...
Oui,
des...
ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à cette idée de convergence, de performance, donc il va falloir s'y habituer. Mais il y a une petite jeune femme qu'on suit, une Suédoise, qui est passionnée au dernier degré, et l'été dernier, donc elle s'appelle Eva Akanson, et
21 ans, c'est ça?
Comment?
Elle a 21 ans?
Elle a un peu plus maintenant.
Oui, d'accord, à l'époque.
Un peu plus maintenant, à l'époque, ouais. Et donc, elle a commencé par se faire une petite conversion sur la base d'une petite Kajiva 125. Elle avait 21 ans ou 22 ans, avec son père, qui est l'ancien motard compétition thermique. Et là, cet été, elle a enfoncé le record du monde de vitesse absolue en sidecar, donc y compris thermique, avec son side électrique, puisqu'elle a fait les deux passes à Bonneville à 387 km/h, ce qui est quand même assez remarquable, et une pointe à 434 km/h. Et là, pour les années qui viennent, il vise 600 km/h.
D'accord.
C'est pas mal.
Et tu peux nous faire un point rapide sur les productions électriques? Il nous reste une minute.
Ouais, alors c'est vrai qu'aux États-Unis, on commence à avoir pas mal de marques qui arrivent. Bon, déjà, Harley Davidson qui a fait tomber tout le monde de sa chaise cet été en présentant le projet Limoyer. Donc si Harley s'y met, on s'est tous dit dans la communauté électro, c'est qu'il y a des choses qui bougent. On commence à trouver des machines vraiment intéressantes comme les Lightning Motorsport qui sont des super bikes électriques. Je crois qu'ils ont même le record de vitesse pour une moto de série à 350 km/h. En France, on commence à voir les deux marques Bramo qui a toute une gamme, et également Zero Motorcycle,
et dont on parlera tout à l'heure avec Géry.
Voilà, des machines qui ont 200-250 km d'autonomie et qui sont tout à fait crédibles au niveau accélération. Quand on est dans les 0 à 100 en 3-4 secondes, c'est très honnête.
D'accord.
Voilà, avec une qualité de fabrication tout à fait comparable à ce qu'on trouve en thermique.
Ok. Bien, écoute, Yann, merci beaucoup de ta contribution. On continue le sujet avec après la participation de Philippe.
Écoute attentivement.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Shiny car, your face in the wind and your haircut's sin, friends to kill desire. You may find a cushy job, and I hope that you go far. If you really want to taste some cool success, better learn to play guitar. Play guitar! You know you're a beautiful fool. You know you can't touch that stuff without money or a brand new car. Let me give you some good advice, young man. You better learn to play guitar. Play guitar.
Électrique, ça carbure. Hein. Non, mais ça, c'est. Ah, oui. À l'électron. Ah, au téléphone, nous avons Géry Fauchil. Hein.
Géry, bonjour.
Bonjour, Christophe.
Christophe, ici. Donc, tu es sur la route, là. Hein.
Je suis en Bethesda entre Romanche et Courseuil.
Voilà. Alors, toi, tu es un vectricien de la première heure, mais tu es vite passé à autre chose. Et donc, j'aurais voulu recueillir ton témoignage sur la zéro, parce que maintenant, tu roules en zéro.
Oui,
et...
moi, j'ai commencé à rouler en électrique. En 92, donc j'ai eu d'abord des vélos, des mobilettes électriques, un peu tout ce qui existe. Et c'est vrai que je suis ça avec passion. J'en suis à ma troisième zéro parce que je change chaque fois que je crois qu'ils améliorent leur technique. Et aujourd'hui, j'ai une DS, ce qu'ils appellent une DS, c'est-à-dire une tout-terrain, une trail.
Ouais.
C'est absolument extraordinaire.
Et donc, à l'usage, ça ne te limite pas dans tes utilisations pour tes déplacements?
Bah avec une zéro, aujourd'hui, tu fais 135 km en roulant sagement.
Oui.
Ça veut dire qu'une moto de tous les jours pour aller au boulot, pour faire des petites excursions, c'est très, très suffisant. D'autant plus que tu peux recharger assez vite, à midi. Donc aujourd'hui, on va dire une moto de tous les jours, d'abord, c'est une vraie moto. Tu roules à 160 à l'heure en maximum. Tu as pas mal de pêche, ça fait... une soixantaine de chevaux.
Ouais.
Et moi qui roule la moto depuis que j'ai 16 ans, c'est-à-dire malheureusement maintenant depuis 50 ans, j'ai vraiment l'impression de rouler plutôt sur une moto pêchue que sur une mobilette.
Oui, parce que je sais que tu es propriétaire d'une Goldwyn, mais tu as le temps encore de rouler.
Ah ouais, moi des motos, j'en avais. Avant d'avoir ma zéro, j'en avais encore 9. Et j'ai tout vendu tellement j'aime bien l'électrique.
Voilà. Et en SAV, t'as eu des problèmes avec ces motos là, diverses?
J'ai eu des problèmes à chaque fois, très honnêtement. C'est dommage, mais chaque moto, j'ai fait 5-6 000 km et j'ai eu des pépins pas énormes et une poignée d'accélérateur a changé.
Et est-ce que t'as trouvé des compétences?
Jusqu'ici, c'est son problème puisque c'est Altermove qui les vendait.
Oui.
Donc, bon, à la limite, il me les remplaçait sans discuter. Aujourd'hui, ça va devenir un petit peu plus compliqué. J'attends que Harley reprenne la vente, m'a-t-on dit en mars.
Ok, d'accord. Bah écoute, Géry, merci de ton témoignage. Alors, on va continuer avec les témoignages de deux vectriciens là, qui sont en studio. Et je te souhaite bonne route. En retour.
Le vectrix, je dois dire aussi que j'adorais, mais que c'était abominablement mal fabriqué. À mon avis, c'était des composants chinois, des électroniques chinoises. Et c'est très dommage, parce que c'était l'arme absolue avant.
Oui. J'avais commencé l'émission comme ça, j'avais dit qu'on parlerait sans langue de bois, effectivement. Malheureusement, ça a été une catastrophe de développement de réseau.
C'était un excellent produit saboté en fabrication.
Voilà. Bien, merci Géry, bonne route.
À bientôt, au revoir.
Alors, on revient en studio avec Philippe. Philippe, donc, qui est... bonjour Philippe.
Bonjour.
T'as fait l'acquisition donc, d'un Vectrix il y a 4 ans, je crois.
2010,
ouais. Oui. Qui n'a jamais bien fonctionné. Hein,
toujours des problèmes de batterie.
Voilà. Donc, je ne sais pas si on t'entend bien.
Un problème de micro.
Alors, il y a un petit problème de micro. Voilà. On passe à une solution technique.
Ça va mieux.
C'est mieux comme ça. Donc, je disais Philippe qui a fait l'acquisition d'un Vectrix il y a 4 ans, qui disait n'a jamais bien fonctionné. Et donc, tu as résolu ton problème de quelle façon ?
Ben, je ne l'ai pas vraiment résolu. Ah. J'ai une autonomie, j'ai entendu parler. Le problème de Vectrix, ça a toujours été quand même le problème des batteries. C'est-à-dire, c'est toujours le réservoir d'énergie qui est défaillant. Et on s'étonne un petit peu que ça n'avance pas mieux sur ce sujet-là. Moi, mon Vectrix, le grand plaisir, c'est un engin qui est très agréable à faire rouler. Il y a un frein moteur, c'est extraordinaire en termes de sécurité.
Oui, il faut rappeler qu'il y a une régénération de batterie, d'énergie plutôt pour la batterie, par le frein régénérateur.
Et le frein régénérateur
qui sert aussi
également
de marche arrière.
Et de marche arrière et de sécurité pour ralentir, puisqu'on utilise moins les freins. Donc le plaisir de conduite, il est intact. Les angoisses permanentes de manque d'énergie, il est aussi constant. Alors,
Le truc en fait, le trip, c'est le stress de savoir si on va réussir à arriver.
Voilà.
Ah, j'ai compris.
Oui, c'est ça. Ça.
Attends, pervers.
Ah, mais il faut du stress partout, ouais, sinon.
Et autrement, il y a un truc sympa aussi, c'est la moto de Barbie. La moto de Barbie.
Philippe, vas-y, poursuis un peu.
Alors, moi, j'ai eu un Vespa thermique dans le temps, et j'avoue que depuis que je me suis mis à l'électrique, j'ai le regret de le manque d'autonomie, mais j'ai envie que de ça, quoi. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire de mon Vectrix, parce que si je n'ai pas assez d'autonomie, un jour ou l'autre, il faudra bien que je trouve une solution où je trouverai la personne qui pourra me réparer mes batteries pour qu'elle fasse au moins 60 km. Alors, parce que moi, j'ai une autonomie qui varie de 40 à 55. C'est assez variable. C'est des fois des surprises.
En roulant à quelle vitesse ?
Je roule pas vite. Moi, je roule 70. En moyenne, je fais 70, 90 de temps en temps et 50. Parce que moi, je m'en sers, en fait, pour aller de chez moi, qui est à 20 km de Lille, aller à Lille. Surtout que ce club pour aller à Lille, c'est une merveille. On passe à travers tous les bouchons et c'est très, très souple à conduire. C'est un plaisir.
Alors, il faut rappeler la technologie NIMH d'origine, qui aujourd'hui, on discutait tout à l'heure hors antenne du lithium. Donc, la solution NIMH perdure pour ceux qui sont en IMH, mais avec les tares d'origine du véhicule. Donc aujourd'hui, en lithium, le upgrade lithium doit s'accompagner également de traitement du chargeur, du soft, de la protection par un BMS des aimants de batterie, pour savoir effectivement, parce qu'on est dans la chimie, et que si la production d'énergie pour stocker dans les batteries sont mal gérées, bah on a une perte de rendement.
Hein. Alors, c'est perdu, Nico. Là, hein.
Alors,
le piston... c'est membre, soupape, mais alors...
On aurait dû avoir en studio un membre du lycée Paul Langevin de Oisier, hein, qu'on connaît bien ici chez Kikinkou, puisque c'est avec eux qu'on va travailler sur les ratiers. Ils ont une section de roues électriques. Ils ont 12 élèves qui sont en formation. Aujourd'hui, ils peinent à trouver des entreprises pour faire de l'apprentissage. Donc c'est vrai. Et en Belgique, par contre, on a des... Hein, Jean-Louis, tu peux témoigner. Il y a des compétences, il y a des gens qui ne font que de l'électrique.
Il y en a, il y a des spin-offs d'universités, notamment côté flamand.
Spin-offs.
Oui. Donc c'est des sociétés qui sont créées juste en dehors en fait de l'entreprise, enfin des universités. Donc c'est un côté, ça peut obtenir, ça va s'appuyer sur des technologies développées par les universités pour développer un côté commercial en fait. Donc mais c'est des initiatives de petite échelle. Il existe des compétences disparates pour entretenir les machines, mais c'est vrai que des compétences aussi poussées que Yann qu'on a eu au téléphone. Par exemple, moi j'ai personnellement 3 Vectrix que j'ai emmenés cette semaine à Paris pour les upgrader, et donc c'est vrai que ça représente un coût. Donc la machine, il faut y croire, quoi. C'est-à-dire quand on va investir en 3 000-5 000 euros pour obtenir 150 km d'autonomie, il faut que ça se révèle vrai dans la réalité des choses et que ce soit pas une énième promesse faite qui ne s'avère jamais vraie. Mais ce que je voudrais dire, c'est, je remettrai pas en cause le plaisir de la moto passion. Je suis motard, j'ai fait des trips aussi très importants. Il y a un vrai plaisir de la mobilité, de se déplacer comme ça, se pencher dans les virages. Enfin, c'est un plaisir immense. L'électrique à toutes ces sensations-là. Mais ce que je cherche avant tout, c'est une solution de mobilité pour la ville, une solution efficace qui ne soit pas invasive, qui ne se fasse pas au détriment de la santé des autres. Et l'électrique en ville apporte toutes les solutions. La deux roues, même le deux roues léger, apporte toutes les solutions. Je roule également avec un scooter équivalent 50 qui pèse 38 kilos, qui est fabriqué en France, qui a un moteur avec une durée de vie 1 million de kilomètres, et c'est mon véhicule préféré. Je préfère rouler avec ça qu'avec le Vectrix.
Il faut dire qu'à Bruxelles, vous souffrez aussi de
la congestion. Et donc, je vais juste en parler aussi peut-être de deux mots. On voit que Bruxelles, qui est complètement congestionnée pour des raisons fiscales, donc, c'est-à-dire que les gens sont payés en voiture de société, ils sont payés en carburant. Donc un cadre, étant donné qu'il est très rapidement taxé à 50%, on leur donne des voitures de société. Et donc il y a plus de la moitié du parc de véhicules en Belgique sont des voitures de société qui sont neuves, qui sont surdimensionnées par rapport aux besoins. D'accord ? Donc la voiture, une des 5 voitures les plus vendues en Belgique, c'est la série 5. Je ne sais pas si vous imaginez en fait le budget que ça représente. Et donc du coup, les gens viennent habiter en dehors des... rentrent tous en même temps à Bruxelles. Il y a 400 000 nafteurs qui rentrent quotidiennement à Bruxelles. Donc les routes sont complètement saturées. Et on voit que Bruxelles a tendance à garrotter en fait et à vraiment essayer d'empêcher les gens de rouler en créant des pistes cyclables systématiquement. Et en piste cyclable, malheureusement, avec une moto, vous n'êtes pas vraiment les bienvenus sur les pistes cyclables. Donc on voit que la mobilité, la vraie solution de demain pour Bruxelles, ce serait des sortes de vélos électriques ou en tout cas des scooters légers. Moi, le truc dont je parle, il pèse 38 kilos, il se faufile comme un vélo et ça monte à 50 à l'heure.
Autrement, il y a transport en commun.
Il y a les transports en commun, mais avec les limitations partout.
Tu travailles sur Paris, quand on fait la comparaison Paris-Bruxelles, tu disais que sur Bruxelles, il n'y avait pas la densité de motos et de scooters qu'on trouve sur Paris.
À cause du phénomène de voitures de société, les Parisiens ont compris que pour éviter la crise de nerfs, ils devaient se déplacer en deux roues.
Mais Les Parisiens n'ont pas tous compris.
Ensuite, ça dépend des types de besoins qu'on a.
C'est le même problème partout.
Quand vous avez 3 enfants, c'est sûr qu'en scooter, ça ne règle pas tous les problèmes. Mais à Paris, les gens qui vivent intramuros, il y a très peu de gens qui ont des voitures et ils se déplacent en deux roues. Et vous voyez des rues entières avec des scooters, ça devient un vrai problème de stationnement aussi, en fait. Moi, je ne suis pas pro-parisien, mais j'essaie de comprendre. La première source de nuisance aussi à Paris, au-delà de la congestion, c'est le bruit. Donc, en fait, on a déplacé un problème. On réduit le trafic avec des motos, mais on crée une autre source de nuisance qui est le bruit considérable que font tous ces scooters entre les 125 et 500. Donc le scooter électrique, quelque part, ça règle tous les problèmes. Il n'y a pas de nuisance sonore.
La conclusion, finalement, l'électrique, c'est pour l'instant,
pour la ville,
en urbain, on peut concevoir qu'on peut se déplacer avec ce genre de véhicule.
Urbain et périurbain.
Mais là, il faut pas avoir le stress.
Faut pas avoir le stress. Ouais. Mais il y a d'autres motos comme BMW qui ont créé un scooter qui a beaucoup plus d'autonomie, qui a une autonomie raisonnable. Une fois qu'on arrive autour de 100 km, c'est une autonomie raisonnable.
Et on peut pas juste dire peut-être un mot de Tesla, en fait. Yann m'a appris quelque chose la semaine dernière. C'est que Renault a failli arrêter l'électrique, d'accord ? Ils ont investi 4 milliards d'euros et la raison pour laquelle ils sont restés dans l'électrique, c'est grâce à Tesla. Parce que Tesla a démontré la suprématie de l'électrique sur le thermique avec maintenant une machine qui sort de série à 120 000 euros. C'est pas pour tout le monde, mais ça fait 700 chevaux 0 à 100 en 3 secondes 2. Donc c'est les accélérations d'une moto sportive sur une voiture qui fait 7 places.
Ouais, mais c'est, ça donne tout de suite et après il n'y a plus rien. Hein,
500 km d'autonomie. C'est une poussée constante.
C'est
pas en tirant comme des fous dedans.
Non, c'est pas vrai.
Mais il y a
à 30 à l'heure peut-être, mais pas.
Jamais. 500 km. Mettre à 90.
Bon, on fera l'essai.
On va faire un essai.
Prochaine émission sur le sujet.
Tout mettre d'accord avec
sur l'autonomie des véhicules.
Je suis désolé, on est obligé de couper là parce que là, on va voir après. On a encore d'autres.
Oui, c'est toi l'animateur.
Oui, non, mais vous aussi. Mais sujet très intéressant. Je reconnais qu'il nous manque un peu de temps, mais ben, j'espère que Jean-Louis, tu reviendras repasser une heure avec nous.
Avec
ici,
plaisir.
Dans les studios de campus parce que ouais, c'est très intéressant. Malheureusement, il faut qu'on termine ce sujet. Conclusion, ben, finalement, hein, ce que j'avais dit, c'est que encore l'électrique. Urbain, périurbain, bon d'accord, mais c'est tout pour l'instant. Oui. Moi je pense que j'y crois pas pour aller se balader, faire un Lille-Marseille ou même un Lille-Paris en une journée. Hein,
j'ai toujours pas compris l'intérêt.
Moi j'y crois pas.
Alors
ça va toi, Nico, parce que là on n'aura plus le temps.
Ouais.
Parce que là,
c'est
là il le fait exprès.
Mais c'est
son rôle. Non, mais c'est son rôle, tu sais qu'on l'a briefé avant.
J'aimerais bien savoir quel intérêt.
Mais l'intérêt, l'absence de bruit.
On va passer un morceau de musique parce qu'on a plein de jeunes.
L'absence de pollution,
c'est faux.
C'est
faux l'absence de bruit.
Merci messieurs, musique. Nothing that I've done, it is good enough, it's true. You don't like any of the little things that I've tried for you. Fighting is your privilege. With yourself or someone else. You won't forgive me for all the things that I have missed to do. Anything I try, we fight to get it through. You'll mind any word of good advice that I give to you. Listening is your field of play. You're only listening to the words you say. Your appearance is the big business. You're attentive to. Thank you.
Voilà, on change de sujet. Nous avons rendez-vous avec Jean-Yves Ballois, notre intermittent, j'allais dire.
Intermittent du spectacle.
Parce que je regarde derrière la vitre des studios, ils sont en train de se battre, le thermique contre l'électrique. Non, arrêtez, c'est ça. Rien quand même, pas à ce point-là quand même.
Grand coup d'électron. Non, donc je suis représentant de la FFMC 59 et une des actualités, c'est la création d'une fondation mutuelle des motards. Alors, pourquoi créer une fondation ? Ça veut accompagner et soutenir sur le plan médical et social la recherche et l'innovation technologique pour venir en aide aux motards accidentés. Motards et scooteristes, on n'est pas racistes. Donc les objectifs sont le développement de la recherche médicale appliquée spécifique, hein, parce que les traumatismes engendrés par les accidents moto sont spécifiques et on a plutôt tendance à traiter les automobilistes que les motards. Il faut conduire aussi des études et des recherches au plan clinique, savoir quelles sont en général les implications d'accidents, les effets latéraux et autres. Contribuer en partenariat avec des associations à des initiatives de soutien au bénéfice d'utilisateurs. Alors je peux vous parler là sur le plan personnel, j'ai eu un très grave accident. Et l'accident, il est traité médicalement, mais le problème, c'est tous les problèmes de vie quotidienne qui se déroulent après. Et ça, les aides ménagères, les problèmes quand on habite dans une vieille baraque avec escalier et autres, ça peut être gênant. Et donc, il faut faire une étude là-dessus pour savoir s'adapter aux besoins des motards accidentés. Et puis aussi diffuser l'information en direction de toutes les personnes concernées, aussi bien les scientifiques pour leur expliquer la spécificité des accidentés moto, que auprès des intéressés qui bien souvent, après une grosse chute ou un gros accident, sont dans la panade. Alors, c'est une association à but non lucratif, c'est une fondation qui s'est mise en partenariat avec la Fondation de l'Avenir. C'est ce statut lui permet d'avoir le droit des dons et des legs et à bénéficier de fiscalité propre aux fondations. Et donc, avec cette association, avec la Fondation de l'Avenir, ils ont créé le Free Rider, qui est une espèce d'assurance qui protège qui permet de créer un capital et de protéger les proches en cas de gros pépins financiers suite à un accident. Alors je rappelle aussi, pour parler d'autre chose, que c'est la saison des cotisations. Et donc vous pouvez toujours aller sur le site FFMC pour renouveler votre participation
à la vie collective. Ça a augmenté en 2015 ?
Non, c'est toujours 39 euros.
Bon, voilà, 39
donc,
euros.
Mais on peut mettre plus, si on peut mettre 40 même d'ailleurs, soyons généreux.
Tu participes à la vie de l'association.
Tu participes à la vie de l'association.
La FEDE,
oui. On peut rappeler très très brièvement les arbres de Noël, les manifestations du 1er novembre pour les motards disparus, etc. etc.
Très bien. On a prévu les actus européennes, mais on en parlera le mois prochain, parce que là,
on est à la bourre.
On est un peu à la bourre au niveau timing, parce que maintenant...
Ils sont morts, là.
Ils sont tous morts. Partez pas, on est encore là. On va partir avec Daniel Torel, qui est vice-président de la FBF, la Fédération Bikers de France.
Tout à fait.
Daniel, bonjour, bonne année. Tu viens d'arriver, la bonne santé également pour cette année qui commence. La sortie du nouveau magazine de la Custom Culture.
Ouais, tout
dis-nous
à fait.
Tout là-dessus. Là.
Bah d'abord, tous mes voeux à toutes et à tous, au nom de la FVF. Oui, effectivement, nous avons sorti le 4e numéro du magazine de la Custom Culture. Comme son nom l'indique, reprend tout ce qui concerne la Custom Culture, la musique, la sculpture, la peinture, bien sûr la transformation de tout véhicule custom, de roues, voire quatre roues, et aussi des reportages sur la qualité de nos intervenants fabricants de custom, et aussi des reportages sur nos partenaires, c'est-à-dire tous les gens qui ont du talent, qui exercent dans le milieu du custom, ont des reportages très très précis sur ce qu'ils font de manière à mettre en avance l'excellence de leurs produits. Donc c'est un magazine qui est online, d'abord pour les membres, et ensuite accessible à tous sur le site de la fédération.
Très bien. Un petit mot de l'AG, parce que vous avez, forcément, c'est une fédération, vous avez une AG, une assemblée générale tous les ans. Tout qui a eu lieu, qui s'est déroulé là.
Non, qui aura lieu.
Ah, qui aura lieu, oui, oui, oui. Pas joué, voilà, d'accord.
Oui, elle a lieu le 7 février, d'accord. Donc à Saint-Try, 7 février 2015, alors c'est la salle Corot à Saint-Try, dans le 91. Alors, grande journée ouverte à tous, bien sûr, tous les gens qui ont envie de voir ce que c'est que le monde d'Accession Culture et entre autres de la FBF. Gros avantage cette année, grand stand, exposition de véhicules customisés, de motos, 15h, un gros run. Donc une balade organisée par nos amis. Et la nouveauté, c'est que c'est à la demande. Alors, on s'est expatrié à 30 km de Paris, donc c'est pas très très loin. Mais on s'est expatrié suite à la demande de l'association des entreprises et des commerçants de la ville de Saint-Try qui voulaient nous accueillir donc dans notre toute nouvelle salle, avec grand parking sécurisé, etc. Donc c'est une première. Ça prouve au moins que le travail de terrain qui est fait commence à porter ses fruits puisque nous sommes demandés à peu près partout. Donc c'est une belle avancée, une belle reconnaissance du milieu biker en France et qu'on compte développer un petit peu partout parce qu'on ne veut pas, surtout pas faire un pool uniquement parisien. Donc tout au long de l'année, nous sommes présents à peu près sur 160 manifestations et donc cette année, à partir de 2015, avec notre trucks hein, que tu connais puisque tu en as parlé en 2014, nous serons présents sur tous les gros événements pour présenter nos activités et l'intérêt ou l'avantage d'être membre à la FBF.
Très bien, merci Daniel. On va passer à un morceau de musique et après on va se retrouver avec notre ami Luc et puis le groupe L'Envie.
Eh oui, hein, ils vont nous donner envie d'aller les voir.
Voilà, exactement. You are a dream, you are a star. So let's
faut avouer quand même que...
Un deux temps, c'est quand même mieux qu'un électrique.
C'est quand même mieux quand même.
C'est pas mal.
Le calendrier des motoclubs, alors, 40 pages, 35 000 exemplaires, et la sortie en primeur, ce sera
le 9 janvier au Splendide, vendredi prochain au Splendide, à partir de 19h. Donc vous aurez bien sûr gratuit, hein, parce que nous on est comme ça.
L'entrée c'est gratuit.
C'est gratuit.
Le calendrier c'est gratuit.
Le calendrier est gratuit également. Et tu auras en plus trois groupes, mais quand j'ai trois groupes, on pourrait même dire quatre groupes en fait. Donc le premier, il devrait se produire vers 19h30. Bon, je vous le dis tout de suite, ça s'appelle les vieilles bites. Hein.
Oui. Non, mais super bien. Daniel, tu rigoles là, mais. Non, mais.
C'est un petit peu punk, quoi, histoire de chauffer un peu l'ambiance.
Mais c'est bien de sortir le troisième âge.
Ils ont.
Tout de suite.
Ils ont entre 30 et 40, même pas.
Ouais,
tu
c'est
vois.
Ce que je disais.
Donc histoire de chauffer un peu la salle. Ensuite on aura l'anneau, les jeunes filles.
C'est logique, ça nous rajeunit, tu vois, ça fait la moyenne, hein, tu vois.
Non mais c'est cohérent, les vieilles huit, les jeunes filles. Voilà. En presse.
Il fait dans le subtil. Ouais. Donc elles ont entre 17, 18, 19, je crois à peu près. Hein.
Entre 16 et 19.
16 et 19, elles chantent super bien. Bon, en même temps, ils sont issus d'une famille de musicos aussi. Donc,
ouais, ils chantent beaucoup depuis.
Voilà. Mais ça rend super bien. Et d'ailleurs, elles ont aussi. Elles chantent avec vous puisque vous avez enregistré un album ensemble.
C'est paradoxe.
Voilà. Et donc vous allez faire un morceau ensemble. Puis après, ça sera vous qui pourrez jouer.
Je pense pas qu'on va le faire comme ça. Mais il y aura l'anneau. Et puis après, on invitera l'anneau. Ça va être plein de petites surprises.
Parce que moi, je trouve que leur voix passe super bien aussi sur votre musique. Ouais. Et donc après vous, l'envie, un trio, on va dire, un trio lillois, c'est ça, comment t'appelles ta musique? Plutôt du rock,
de l'alternance,
jazz?
L'alternative, c'est faut pas mettre dans une case, on fait pas du rock, on fait pas du reggae, on fait pas du hip-hop, on fait de la musique. Si tu te mets dans une case, tu me fais de la merde après.
Super. C'est ta passion, quoi.
Notre passion à tous.
Donc vous êtes, trois, c'est ça? Il y a qui?
Il y a Lucien à la batterie. Ouais.
Voilà.
Simon revient en scène.
Salut.
Alexandre Son, parce que les hommes de l'ombre, on les oublie des fois.
C'est
sans les hommes de l'ombre,
c'est
on
est rien. Il va falloir que tu assures vendredi. Hein. Tu sais que.
Effectivement, il va falloir quatre groupes à gérer.
Tu vas nous faire des balances de la mort, là.
Bah, j'espère bien. En tout cas, normalement, on prend du temps dans l'après-midi et tout. On va faire une bonne soirée, ouais.
Et il y a donc Adrien qui est chanteur et guitariste, c'est ça?
Ouais.
Et ensuite, donc, on a Christophe Marquilly qui devrait jouer à partir de 21h30 jusqu'à un petit 23h. Hein, et après, la Miche nous fera un magnifique spectacle.
Ah bon?
Bah oui, tu savais pas, t'es pas au courant.
Je suis encore au courant, mais bon.
Non, on fera une petite tombola avec des produits dérivés à gagner, des trucs comme ça, quoi. Histoire de. Et donc, vous pourrez aussi rencontrer, du coup, l'ensemble des membres de Kikinkou. On aura un stand avec une présentation de nos activités, etc., etc. Et donc, notamment, notre superbe calendrier, qu'il faut le rappeler, est bien un travail d'équipe. Hein. Il y a eu pas mal de gens qui ont travaillé dessus. C'est un travail de longue haleine. Hein. On remercie bien entendu tous nos annonceurs qui nous permettent de financer quand même ce document. 40 pages tirées à 35 000 exemplaires, c'est pas rien, quoi. Ça représente un budget. Heureusement qu'ils sont là. Et puis, bien sûr, les motoclubs aussi qui nous ont quand même apporté cette information qu'on peut, parce que la richesse du calendrier, c'est quand même l'info qu'il y a dedans. Hein.
Eh ben oui, par exemple, l'hivernal du 24 et 25 janvier, l'étoile des neiges. Donc, c'est une hivernale qui se passe en Savoie. Donc, eh bien, vous pourrez, page 8, voir justement le contact pour cet hivernal.
C'est vrai qu'il y en a pas mal d'hivernales en janvier, là, hein, qui sont précisées dans le calendrier.
Oui, on a à peu près 3-4 hivernales dans le mois de janvier.
Alors, on n'a pas pu toutes les mettre. Hein, c'est notre ami Yanis qui nous avait notamment communiqué pas mal d'infos. Parce que on est contraint par la place aussi. Et donc, avec son accord, on a choisi les plus importantes des hivernales. Mais on a quand même pas mal cité. Hein.
Voilà, il faut faire des choix. On a fait un choix sur le CD. Hein,
tout à fait.
Adrien, tu vas nous dire un peu le morceau qui a été choisi là.
Il s'appelle 12 carats.
J'espère que c'est celui-là.
Ça s'appelle 12 carats.
Laurent, il fait oui.
Puis c'est un morceau qu'on adore jouer sur scène et on a pu l'enregistrer grâce au tremplin Imagine cet été. Et donc voilà, ça s'appelle 12 carats. C'est un petit souvenir de Bretagne. J'espère que vous allez bien l'aimer. We'll be right back.
te brise, arrogante d'ainsi, ravageante quitte à souffrir, avant de repartir, hors de toi, je suis en émoi. Hors de toi, je suis en émoi. Ah, ah. Esquinte, après tout, l'horizon n'est pas si bon. Après tout, l'horizon n'est pas si bon. Rares sont les rêves qui nous percent. Avec cette folie qui me perce. Rares sont les rêves qui nous percent. Avec cette folie qui me perce. Oh, oh.
Voilà, c'est 20h30, donc c'est vendredi 9 janvier. C'est
au Splendide.
Au Splendide, avec l'envie. Adrien, ça va, tu es satisfait un peu de la maquette là? Enfin, c'est plus une maquette, c'est un disque que vous avez.
Ouais, c'est un EP. Bah, ouais, satisfait, ouais, c'est un début, quoi. Mais faut pas s'arrêter là, quoi. On a envie d'encore enregistrer. Ça a été une étape pour pouvoir démarcher les bars. C'est plus une sorte de CV. Quand tu débarques, t'as moins l'air d'un branque quand tu débarques avec ta guitare et le gens se loge. Je vous fais un morceau, ce qu'on peut jouer ici, quoi. Maintenant, on envoie le CD ou le SoundCloud et puis on trouve des dates.
Bon, alors après le 9 janvier, c'est où?
9 janvier, après on fait le 17 janvier au Haricot, le 21 à la Damsé. Après en février, on fera le 6 à Beausuite, le 22 au Frénois. Février, mars, en mars, on sera au Biplan avec la Pax. Donc là, ce sera le 17 mars, donc au Biplan, en super salle. Avril, on sera à l'Anti-Bercy. Mais on n'a rien. Et pour juin, on sera au Botanique. Vous pouvez déjà prendre vos places, c'est gratuit. Le 28 janvier au Botanique, 1000 personnes.
Voilà, ben, de toute façon, c'est gratuit aussi vendredi au Splendide. Hein,
voilà.
C'est le premier groupe, donc on rappelle c'est les vieilles beats. Hein, donc à 19h30. Hein.
Voilà.
Pas de problème, hein, ça roule. Hein.
Ouais, ouais, ça roule.
Tu les as vus, tu as négocié le contrat avec eux.
Ouais, non, t'inquiète. Ça, c'est de la bonne musique qui déménage bien et tout. Ça va bien mettre l'ambiance. Super, ça va bien chauffer.
On a mis un coup de booster sur notre imprimeur, hein, parce qu'on va avoir 4000 calendriers à distribuer déjà en primeur.
Voilà. Vendredi, voilà. Hein, c'est vraiment pour le public qui viendra, qui se déplacera.
On va les numéroter, en fait. 4000, ça fera un collecteur éventuellement. Bon, on sait jamais, ça peut marcher dans 50 ans. Voilà, tiens, en parlant de calendrier, tiens, j'ai retenu quelques dates. Eh ben, si vous êtes amateur de vitesse, le Grand Prix de France moto, ce sera le 17 mai. Si vous êtes amateur d'endurance, des 24 heures moto au Mans. Et là, on revient à la version qui a toujours existé, en fait. Oh. C'est le 18 et 19 avril. Le Boulder, c'est le 19 et 20 septembre. Voilà, l'émission se termine. Daniel, on profite, mais finalement, il nous reste une minute.
Bah oui, mais plein de choses. Donc, chez les bikers de France, hein, plein de...
Ah, les bikers, ils ne vont pas au Grand Prix de France. Hein.
Oh, on y passe. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas au
style. On ne va pas au Boule d'Or.
Bon, c'est pas trop notre
pas leur truc.
Hein. Non, pas vraiment. Mais bon, ceci étant, on a aussi pas mal d'anciens pilotes de Grand Prix qui roulent avec nous. Hein. Donc, voilà, c'est pas un problème en soi, au contraire. Mais on nous verra à peu près partout avec notre super Peterbilt. 1985.
Ah oui, c'est votre gros camion là.
Ouais, gros camion avec une scène.
Ah, il roule pas électrique lui, hein.
Non.
Lui, pollue, hein.
Pas beaucoup, on fait attention quand même, on fait attention. Mais au moins on nous voit arriver. En plus, avec une scène mobile de 170 mètres carrés, Hospitality.
Oui. Il faut de l'énergie aussi.
Ça, ouais, c'est... ouais, une sono de 20 000 watts. Enfin, c'est quoi ça?
Vous pourriez peut-être inviter l'envie, peut-être, non faire ouais. un grand événement majeur.
Oui, alors le problème là, c'est que tous nos calendriers sur 2015 sont.
Ah, c'est pris déjà. Ouais, les calendriers, ça y est, c'est bien. Bah voilà, c'est imprimé, c'est... Hein, trop tard les gars.
Non, c'est pas imprimé, c'est-à-dire que les contrats sont passés.
Ah oui, les contrats sont passés. Donc, parce que voilà, vous avez des gros contrats avec les Bikers de France. Hein.
Voilà, mais avec plaisir, de toute manière.
Je crois qu'ils ont beaucoup de sous. Alors,
non, pas du tout, nous sommes des... nous sommes pauvres.
Oui, bien sûr.
Mais plein d'espoir, plein d'espoir.
Mais plein d'espoir.
Voilà.
À donc, devenir riche.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, oui. Surtout qu'on espère aussi, vous parlez aussi de tous nos essais de bikers, c'est-à-dire sur les customs qu'on va passer,
oui.
Et qui sont, à notre avis, trop peu connus. Et des comparatifs avec les marques légendaires HD et compagnie. Voilà.
Très bien, merci Daniel. Les belles génériques qui arrivent, c'était cette première émission de 2015. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Voilà, hein. Et puis on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h.
Et
pour le magazine.
Et vendredi
pour la distribution.
Vendredi et dimanche, bien sûr.
Et puis voir nos amis les Vieilles 8, et puis l'Envie, etc. Faut aller les voir.
Et Christophe Marquis.
Et Christophe aussi, bien sûr.
Merci, passez un bon dimanche. Au revoir, dimanche prochain.
Salut. Au revoir.
Salut.